franceinter.fr.
Bonjour Patricia, bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce dimanche, nous sommes donc le jour d'après, ou plus précisément le jour d'après, mais ce détail a peu d'importance. Au regard de la situation, disons donc que nous sommes un peu plus de 24 heures après le carnage, le massacre, les scènes de guerre et l'horreur que décrivait l'ensemble des journaux hier matin. Et ces mots qui faisaient la une ont aujourd'hui fait place à d'autres, moins violents, qui disent avant tout la tristesse et la sidération d'un pays plongé dans le deuil. Le décret proclamant les 3 jours de deuil national a été publié ce matin au journal officiel et c'est seulement la 6e fois qu'une telle mesure est décidée sous la 5e République. La dernière, c'était en janvier, au lendemain de la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo. Et c'est donc ce mot, le mot deuil, qu'on retrouve à la une de la Voix du Nord et de Ouest France, notamment l'Est éclair et Presse océan, évoquant de leur côté une France sous le choc, une France touchée en plein cœur, titre Sud-Ouest dimanche, une France en larmes. Pour Nice matin, photo de passants venus déposer des bougies devant les lieux des attentats. Des bougies et des fleurs. Fleurs qu'on retrouve aussi à la une de l'édition spéciale que publie Libération. Un bouquet de roses sur un fond noir et pas un seul mot, pas un titre, juste le silence d'une photo. D'ailleurs, pour l'occasion, le Figaro sort également un numéro ce dimanche, 16 pages, et ce titre, le chagrin et la colère. Le Figaro, dont la dernière parution dominicale date d'il y a près d'un quart de siècle, en 1991, au moment de la guerre du Golfe. Là encore, des bougies et des fleurs et un homme agenouillé, prostré, la tête dans les mains. Tous les journaux reviennent, comme hier, sur le déroulé de la soirée de vendredi, les 6 attentats, les fusillades, les explosions, la prise d'otages au Bataclan, et tous reviennent également sur l'éprouvante recherche des proches disparus.
Oui, des recherches via la plateforme du ministère de l'Intérieur, mais également sur les différents réseaux sociaux.
Notamment sur Twitter, ainsi que le raconte Libération toute la journée d'hier. Les familles et amis jetaient des bouteilles à la mer. Ils s'appellent Pierre, Mayol, Stéphane, Antonio, Maud, Lola. Ils étaient au Bataclan, au café, au restaurant ou dans les rues de Paris au moment des attentats. Quelques exemples de ces dizaines de messages rédigés dans les heures qui ont suivi les attentats. Toujours pas de nouvelles de Chloé, vue la dernière fois devant le petit Cambodge. On recherche notre amie Susan. Elle était au concert hier soir. Quelqu'un peut-il donner des news de Nathalie ? Des visages d'hommes et de femmes défilent sur Twitter. Des photos de gens heureux, postées donc par leurs proches qui n'hésitent pas à donner leur numéro de téléphone portable pour tenter d'obtenir des informations, des appels à témoins, suivis parfois d'annonces rassurantes, blessés mais vivants, où cette femme va bien, aperçue dans une ambulance, elle était juste sous le choc. Mais il arrive aussi que ces avis de recherche se transforment en avis de décès. Et ce sont les photos d'une douzaine de personnes décédées que publie ce matin le journal du dimanche, des visages et des noms, de courtes biographies qui racontent ce qu'étaient ces vies que la barbarie a fauchées. Il s'appelait Livio, patron d'un resto italien. Elle s'appelait Véronique, elle était journaliste. Il s'appelait Mathias, il était ingénieur. Elle s'appelait Lola, elle était éditrice. Elle s'appelait Marie, elle était étudiante. Dans le journal, vous lirez aussi l'effroi régnant au sein des hôpitaux qui ont pris en charge les blessés. Une traumatologie de masse et une chirurgie de guerre à l'hôpital Lariboisière. Le chirurgien Rémi Nizard témoigne de son désarroi. Certaines plaies, raconte-t-il, sont impossibles à refermer. La violence du choc a emporté des bouts d'os, des bouts de muscles, de tendons. Il a fallu placer des fixateurs externes qui ressemblent à des antennes de télévision. Il y a ceux qui ont perdu une jambe, un bras, des traumatisés à vie. Sachant qu'à cette heure, une centaine de blessés sont encore, selon l'expression consacrée, entre la vie et la mort. Le jour d'après, c'est donc le deuil. Et Paris, dont les habitants sont pour nombre d'entre eux restés cloîtrés toute la journée d'hier. Le jour d'après, c'est également de nouveaux témoignages. Ainsi, sur le site de La Croix, l'un des journalistes du journal, qui était dans l'un des cafés attaqués par les terroristes, raconte que pendant toute la soirée jusqu'au bout, les blessés, les rescapés et les témoins, tout comme les médecins des urgences, se sont montrés extrêmement dignes. Des êtres humains debout dans l'adversité, explique-t-il, comme j'en ai vu en Afrique, en Ukraine ou sur d'autres théâtres de guerre. Une humanité que jamais leurs agresseurs ne parviendront à écraser.
Et puis dans le même temps, l'enquête se poursuit pour connaître l'identité de ces agresseurs.
Une traque qui a commencé dans toute l'Europe et qui a déjà amené à quelques conclusions que résume brièvement le journal du dimanche. 3 équipes coordonnées, une piste vers la Belgique, une autre venant vers un faux réfugié syrien. Les contours de la pire attaque terroriste jamais perpétrée en France se dessinent. des personnes placées en garde à vue en France, d'autres placées en garde à vue en Belgique, et l'un des assaillants du Bataclan a donc été identifié, un Français de 30 ans, fiché depuis 2010 par les services de l'antiterrorisme et qui, d'après son frère, était parti en Algérie avec sa famille, sa petite fille. Pour le reste, les journaux ne font que poser des questions ce matin. Les autres assaillants, qui sont-ils et pourquoi donc avoir ciblé le Bataclan, vraisemblablement parce que la salle avait plusieurs fois accueilli des galas d'organisations juives, estiment certains journaux. Par ailleurs, à Saint-Denis, est-ce l'intérieur du stade qui était au départ visé? C'est en tout cas l'hypothèse du Wall Street Journal, selon lequel l'un des trois kamikazes disposait d'un billet pour le match. Mais il aurait été refoulé au moment de la fouille. Autre question, les mesures de sécurité décidées après les attentats de janvier sont-elles suffisantes? Trop tôt pour juger, nous explique Le Monde. Elles ne sont effectivement entrées, ces mesures, elles ne sont effectives que depuis quelques semaines, trop tôt donc pour savoir si elles sont suffisantes. Mais le fait est, explique Le Monde, que les services de renseignement sont aujourd'hui totalement débordés. Et puis le jour d'après, l'heure est aussi à la riposte. C'est en apparence qu'explique Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Il faut viser l'ensemble des capacités de ce groupe État islamique, précise-t-il dans un entretien au journal du dimanche. Combattre partout, sans relâche, cette armée terroriste. De ses centres d'entraînement à ses terminaux pétroliers, deux cibles des derniers bombardements français.
Les éditorialistes disent d'ailleurs la même chose, Frédéric.
Oui, l'heure est certes à l'unité, mais elle est également à la riposte. Certes, refusons la haine, restons civilisés, martèle David Guévard de Nord Littoral, mais acceptons aussi qu'il n'y aura pas de solution qui ne ressemble à une éradication du mal, car le temps est venu de rendre coup pour coup, d'être impitoyable face à nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, assure Raymond Coureau dans l'Alsace. Contre la brutalité, il n'est qu'un principe, la force contre la sauvagerie, qu'une loi, l'efficacité pour gagner la guerre. Il faut la mener, affirme Alexis Brézé dans le Figaro, tandis que Laurent Geoffrin, dans l'édito de Libération, estime que la conclusion qui s'impose aujourd'hui, avec son terrible réalisme, c'est que les Français doivent désormais vivre avec le terrorisme, vivre avec le terrorisme n'empêche, ainsi que le proclame à sa une Le Parisien, un seul mot, résistons.